Jusqu'au 13 février, le château de Versailles nous invite à découvrir une des facettes méconnues et pourtant capitales de la vie à la cour au XVIIe et au XVIIIe siècle. Animaux domestiques, sauvages, exotiques, peuplaient jardins et châteaux. Omniprésents dans le quotidien, comme en attestent les récits de l'époque, remplis d'anecdotes à leur sujet, ils furent également abondamment représentés. L'exposition intitulée « Les animaux du roi » est une occasion exceptionnelle de voir réunies 300 œuvres issues d'une cinquantaine de collections françaises et étrangères. Une scénographie immersive nous invite à déambuler dans ce fabuleux bestiaire aujourd'hui disparu et à réfléchir sur la place de l'animal à la cour de Versailles. Partons flâner les yeux fermés, avec un regard pour l'art, dans cette exposition qui se veut engagée. Nous arrivons devant cette résidence royale, alors située au cœur d'une immense forêt. Au cœur d'une réserve de chasse de 11 000 hectares à la fin du règne de Louis XIV. Nous franchissons la grille du château, traversons la cour et pénétrons dans cette résidence. Nous découvrons deux groupes de sculptures, les chevaux du soleil, signés Gilles Guérin pour l'un et les frères Marcy pour l'autre. Au temps de Louis XIV, ces groupes sculptés prenaient place non loin de là, dans le parc, dans la grotte de Tétis. En marbre de Carrare, monumentaux et pleins de vie, ils figurent des chevaux dételés et rendus à leur liberté. Ils annoncent également le thème animalier de l'exposition qui fait aujourd'hui l'objet de notre flânerie. Poursuivons notre chemin. Nous parcourons le vestibule bas de la chapelle, les salles passionnantes retraçant l'histoire de Versailles. Nous montons au premier étage, nous y sommes. La scénographie, orchestrée par Giucciardini et Magni Architetti, nous plonge immédiatement dans le vif du sujet. De hauts treillages, qui semblent contenir une végétation prolifique, nous guident dans un dédale. Des treillages comme ceux que le nôtre affectionnait particulièrement pour le décor des jardins à Versailles. Nous sommes immergés dans un bosquet, le bosquet du labyrinthe. Il est peuplé, très peuplé. Dessiné par André Le Nôtre en 1665, ce lieu, uniquement végétal à l'origine, accueillit très rapidement, dès 1674, 39 fontaines et 330 animaux de plomb polychromés, ainsi que des volières. Nous sommes dans la partie méridionale des jardins du château. Le contraste est intense avec le reste du parc où se déploient parterres, perspectives, bosquets ouverts et symétriques. Imaginons dans ce dédale les odeurs de végétation, le bruit des jets d'eau, les chants des oiseaux. L'expérience est hors du commun, extraordinaire, enchanteresse peut-être. Nous avançons, les scènes se succèdent. Les acteurs y sont des animaux en plomb, polychromés. Ces scènes sont de véritables dioramas. Nous déambulons maintenant dans l'exposition qui recrée cet univers fabuleux. La scénographie, évocatrice, nous fait revivre l'enchantement des visiteurs d'antan. Ici, une alcôve abrite deux sculptures figurant le loup et la grue. Nous voici immergés, plonger dans l'univers de la fable. Là, un paon déploie sa queue, majestueusement, à l'abri d'une rotonde. Au détour des allées, nous découvrons un coq d'Inde, très ressemblant à notre dindon, sculpté par Pierre Maseline. Un serpent, aux allures de dragon, sculpté par Jacques Houzeau. Un renard qui tourne vivement la tête, sculpté par Jean-Baptiste Tuby. Une fontaine, soutenue par trois singes, œuvre d'Étienne et Jacques Blanchard. Je pourrais encore vous citer bien d'autres noms de sculpteurs. Ils travaillent tous pour les bâtiments du roi. Ils furent une vingtaine à donner vie à ce bosquet, à participer à ce projet, à ce chantier d'envergure. Une telle ampleur dans le domaine de la sculpture animalière ne s'était pas vue depuis les Médicis à Florence, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Et la qualité d'exécution rivalise avec celle d'un Giambologna. Il faudra ensuite attendre le XIXe et des artistes comme Barry pour revoir un tel engouement et une telle virtuosité dans le domaine de la sculpture animalière. Nous circulons dans ce bestiaire méconnu, dans ce qu'il en reste, devrais-je dire. En effet, sur les 330 plombs initiaux qui furent mis en réserve lors de la destruction du bosquet du labyrinthe, 100 ans après sa création, en 1774, sous les ordres de Louis XVI, seulement 35 sculptures nous sont parvenues. Beaucoup ont disparu au XIXe siècle, elles furent sans doute fondues. Arrêtons-nous un instant devant une paire. Singe chevauchant un bouc et regardant à dextre. Singe chevauchant un bouc et regardant à sénestre. Le singe est très présent dans le bosquet du labyrinthe. 7 fontaines avaient le singe comme sujet principal. Les sculpteurs appréciaient sa souplesse. Le singe est très présent à Versailles en général. Au château, ils étaient fort appréciés également et souvent offerts aux femmes et aux enfants. Buffon relate qu'il a vu naître 2 sapajous chez Madame de Pompadour. Mais revenons à nos sculptures. Cette paire était disposée en symétrie dans le bosquet du labyrinthe. Elle l'est également dans l'exposition. Chaque groupe figure un singe assis sur un bouc à poils longs. Celui-ci saute, prenant appui sur ses 2 pattes arrière. Ses pattes avant et sa tête sont relevées. Le singe, assis sur son dos et quant à lui tourné vers nous, il ouvre la bouche. La polychromie de ses statues a disparu. Elle reste pourtant pleine de vie. Ces 2 groupes annonçaient la fontaine principale du bosquet. Pour en savoir plus, je vous propose d'ouvrir le recueil intitulé « Labyrinthe de Versailles », un magnifique manuscrit sur vélin illustré de gravures de Sébastien Leclerc, gouaché par Jacques Bailly. Penchons-nous sur la double page de la fontaine 12. À gauche, nous y lisons le texte calligraphié à l'encre dorée par Nicolas Jarry. Texte intitulé « Le combat des animaux terrestres et des oiseaux ». Il est constitué de 4 vers. Les voici. « Guerre des 2 côtés, sanglante et meurtrière, dont pas un ne voulut avoir le démenti. Mais la chauve-souris, trahissant son parti, n'osa jamais depuis regarder la lumière. » Sur la page de droite prend place l'illustration de cette fable, ou plus exactement, la représentation de la fontaine 12 du bosquet. Elle y figure comme dans un tableau, au cadre doré et sculpté avec finesse. La fontaine prend place dans une rotonde de treillage. De nombreux jets d'eau s'élèvent. Certains complètement verticaux montent jusqu'en haut de la représentation. D'autres retombent en courbes harmonieuses et semblent aller abreuver des animaux de plomb, polychromés eux aussi, réunis autour de la fontaine. Au centre, un rocher formé de rocailles. De nombreux quadrupèdes et une chauve-souris. ils tentent justement d'atteindre de leur jet d'eau les oiseaux perchés au sommet du pavillon formant coupole. Cette voûte liquide s'épanouit à l'intérieur du treillage. Cette fontaine douce réunit une cinquantaine d'animaux. Elle est capitale par son ampleur. Elle l'est aussi par son sujet, la trahison et ses conséquences. Ce thème était d'autant plus explicite que le poème que je viens de vous lire était peint sur une plaque de plomb insérée dans la fontaine ou placée à proximité. Chaque scène, chaque diorama est l'illustration d'un texte de quatre vers inspiré des fables d'Ésope, mais écrit par le poète et membre de l'Académie française Isaac de Benserade. Alexandre Maral, l'un des commissaires de cette exposition, synthétise ainsi l'esprit de ce bosquet. La nature pour modèle, les hommes pour cible. En effet, ces scènes, jouées par des groupes animaliers sculptés en plomb, ont une valeur didactique évidente. Depuis l'Antiquité, les animaux sont des précepteurs pour les hommes. Les sujets des fontaines sont variés. Elles évoquent le thème de la progéniture, celui des conflits amoureux. Elles délivrent des leçons de prudence et de comportement dans la vie sociale. Elles abordent les questions d'ordre politique, les enjeux du pouvoir. Si vous en doutez encore, rendez-vous auprès de la fontaine 30, intitulée « Le serpent à plusieurs têtes ». Elle fait l'éloge de l'absolutisme. Et si nous évoquions la fontaine 23, intitulée « Le singe roi » Même si elle est très incomplète et fragmentaire, elle est plutôt bien représentée dans l'exposition. Un bouc, un ours, un loup, un chien sont réunis autour d'un singe au bras levé. Les animaux sont posés sur des socles de verre. Le jeu des reflets nous rappelle qu'ils animaient des fontaines. L'observation des acteurs de cette scène est très précise, réaliste. Ce sont comme des portraits. Tous ces animaux ont la tête vers le haut et la bouche ouverte. En effet, l'eau en jaillissant de leur gueule traduisait les paroles que la fable leur assignait. Déchiffrons. Lisons ce qui est inscrit sur la plaque de plomb. Le singe roi. Le singe fut fait roi des autres animaux, parce que devant eux, il faisait 1000 sauts. Il donna dans le piège, ainsi qu'une autre bête, et le renard lui dit « Sire, il faut de la tête ». Comme vous l'avez entendu, cette fontaine parle aussi de pouvoir, et cette fois avec une grande liberté, puisque la personne même du roi, du singe roi, y est raillée par le renard. Pour être roi, tout n'est pas dans la parade, l'apparence. Il faut de la tête, de l'esprit. Le dauphin est encore en formation, il est appelé à régner. L'enseignement de ces fontaines s'adresse sans doute à lui, mais aussi à ses successeurs. Quittons maintenant ce dédale, ce labyrinthe. Quittons ces jardins grouillants de vie animale, au sens propre et au sens figuré, pour poursuivre notre déambulation et découvrir plus avant à quel point peintres et artistes en général furent inspirés par le monde animalier de Versailles. Nous entrons maintenant dans une vaste salle à l'éclairage tamisé. Nous sommes dans la salle dite des animaux vedettes. Au mur, d'un bleu sombre qui met particulièrement en valeur les œuvres, un bestiaire foisonnant. Versailles regorgeait d'animaux. Savants et artistes n'ont eu de cesse d'étudier leur beauté. Au centre de la pièce, un objet extraordinaire, somptueux, spectaculaire. Un traîneau léopard. Eh oui, sous les trois règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, des courses de traîneaux avaient lieu à Versailles. Ce loisir, venu des pays scandinaves, se déroulait sur les allées enneigées du parc, voire même, par les hivers de grand froid, sur le grand canal pris par les glaces. Le luxueux véhicule était harnaché à un cheval ferré à crampons. Certaines courses avaient lieu les nuits de pleine lune. Sonnettes et grelots d'argent fixés sur les harnais des montures tintaient dans l'ambiance feutrée et hivernale du parc. Fait exceptionnel à Versailles, unique par rapport aux autres courses européennes, signalons-le, les dames avaient le droit de mener leur propre traîneau. Le roi Louis XV excellait à cette pratique. On raconte qu'il allait à toute bride et aimait amener ses filles. Le léopard que nous avons devant nous fait partie de la collection royale. Avec le rendu illusionniste de sa fourrure, sa gueule ouverte, ses dents saillantes, ses yeux de verre exorbités et son corps cambré, il semble comme prêt à bondir. Il fut réalisé et peint à l'imitation d'un animal réel. L'artiste s'est sans doute inspiré du véritable léopard qui vivait à la ménagerie de Versailles dans les années 1730-1740. Ce léopard fut également portraituré par Jean-Baptiste Oudry. Mais c'est sur une autre œuvre de cet artiste que nous allons nous attarder maintenant. Elle est également dans cette salle. Elle s'intitule « Trois chiens et une antilope ». Elle date de 1745. C'est un format paysage, proche du carré, 2 mètres de long sur 1 mètre 80 de haut. Nous sommes face à une composition rigoureusement construite, structurée, frontale. Nous sommes face à un chef-d'œuvre. L'essentiel de l'arrière-plan est envahi par un mur de pierre au bloc quadrangulaire, massif, régulièrement taillé, surmonté d'une corniche. Ce mur constitue comme la base d'un édifice. Dans la réalité, il s'élève peut-être à 1,50 m de hauteur. Nous sommes devant l'un des angles du socle d'une architecture surmontée de piliers. En effet, si notre regard se porte vers le haut, nous devinons l'un d'entre eux, dans l'espace supérieur de la représentation. Il occupe seulement un neuvième de la hauteur du tableau. C'est donc vraiment la naissance de la base du pilier que nous apercevons. Mais il couvre la moitié de la largeur de la toile, presque un mètre. Ce fragment d'édifice dont nous ignorons la fonction, d'un très grand classicisme, est monumental. Nous sommes tout près de lui, il ferme l'horizon. La scène se déroule en plein air, mais Jean-Baptiste Oudry laisse dans sa composition peu de place à la végétation. À gauche, une bande verticale d'environ un quart de la largeur de la toile nous plonge dans un univers sombre et forestier, duquel se détache le tronc d'un arbre brisé, sans doute lors d'une tempête. Il est encore planté dans le sol, il est encore enraciné. L'endroit où il s'est rompu est traité avec précision par l'artiste. Nous voyons le détail de son écorce et de l'intérieur du tronc taillé comme en V par le souffle du vent. Ce tronc, cette fraction de tronc, est aligné avec le mur. Il est légèrement plus bas que celui-ci, il mesure peut-être 1 mètre de haut et s'incline vers la droite. Quant au sol, il occupe le premier plan, une bande horizontale, tout le quart inférieur du tableau. Le peintre y restitue une terre, ocre, sablonneuse, animée de touffes d'herbe traitées avec une extrême finesse, dans un vert tendre. L'ensemble de la scène est vraiment lumineuse. La forêt obscure étant vraiment reléguée à l'arrière-plan, dans le coin supérieur gauche du tableau. Le décor est planté. Vous l'aurez compris, la mise en scène est théâtrale. Parlons maintenant des protagonistes. Devant ce mur de pierre se détache une antilope, un des animaux phares de la ménagerie. Elle est de profil. Ses deux pattes avant sont alignées, elle vient de s'arrêter. Elle tourne la tête vers nous et nous fixe. Son regard est intense, perçant, presque inquiétant. Son pelage est principalement brun fauve. Seul son ventre, l'intérieur de ses pattes et le contour de ses yeux sont blancs. Son regard n'en est que plus frappant. La lumière vient jouer sur ses longues cornes annelées, élégamment spiralé. Son poitrail musclé soutient un port de tête fier, altier. À l'extrémité des pattes fines, mais puissantes, de cet animal sauvage, les sabots sont figurés avec une extrême précision. L'antilope, par ses couleurs et son exotisme, contraste avec force avec l'architecture de l'arrière-plan. Elle est loin de son lieu de résidence, elle est loin de son lieu de vie habituel, la savane ou la steppe. Elle est comme posée là, comme incongrue. Son attitude, calme, stoïque, nonchalante, insensible, peut également susciter chez nous, spectateurs, surprise, étonnement, fascination, admiration. En effet, derrière elle, à gauche de la toile, trois chiens blancs, avec quelques rares taches brunes, pour l'un au niveau des oreilles, pour l'autre autour des yeux. Ils sont figurés eux aussi avec un grand réalisme. Ils ont le poil ras, les oreilles pendantes. Ce sont trois chiens de chasse, trois chiens d'arrêt, trois braques blancs, très probablement. Louis XV les affectionnait particulièrement. Ils sont attachés par une corde, enroulée autour du tronc de l'arbre brisé que nous venons d'évoquer. Le chien du premier plan est assis. La corde fixée à son collier est souple. Il se retourne vers nous et, comme l'antilope, regarde dans notre direction. Les deux autres chiens derrière lui, en revanche, s'élancent. Ils tirent avec force sur le lien qui les retient à l'arbre. Ils sont tendus vers l'antilope dans leur corps, leurs gestes, leur attitude et leur regard. Le plus éloigné de nous se dresse même sur les pattes arrière, dans un mouvement diagonal, son museau pointant vers le haut. Trois chiens et une antilope. C'est le titre de cette œuvre. Les acteurs ont été présentés. Sur cette toile, ils sont véritablement portraiturés. Cependant, la description reste incomplète. Il nous faut maintenant évoquer deux autres protagonistes. Ils sont morts. Il s'agit de gibiers. Deux magnifiques prises de chasse, un faisan et un canard, semble-t-il, suspendus par les pattes au pilier de l'architecture. Tête vers le bas, ils se déploient sur le mur de pierre. Il constitue une magnifique nature morte où s'exprime toute la maîtrise du peintre. Leur ramage est rendu à la perfection. Les couleurs fauves et chaudes du faisan répondent au brun de la gazelle. Les nuances dans les blancs gris des ailes du canard nous donnent à voir la finesse de chaque plume. Cette œuvre, au sujet animalier, associe donc plusieurs univers dans un format monumental, digne d'une peinture d'histoire. Il s'agit de la rencontre imaginaire de plusieurs mondes qui cohabitent à Versailles. Celui de la chasse, avec les chiens et les oiseaux morts. Celui de la ménagerie royale et de ses animaux exotiques, avec l'antilope. Ce tableau, qui fait partie d'une collection irlandaise, ne peut pas laisser indifférent. Il est d'une grande modernité, dans l'association presque surréaliste de ces animaux. La scène est improbable, irréelle. L'image puissante, poétique, presque fantastique. La touche et le coloris très lumineux. La mise en œuvre virtuose. Quelles furent les sources d'inspiration de Jean-Baptiste Oudry? Le moment est venu d'évoquer deux peintres omniprésents dans cette exposition. Il s'agit de Peter Boulle et Nigasius Bernards. Méconnus, oubliés, ils furent pourtant les véritables initiateurs de la grande école animalière française. Qui sont ces artistes? Revenons un instant sous le règne de Louis XIV. Peter Boulle et Nigasius Bernards, deux artistes de l'école du Nord, deux artistes d'origine anversoise, travaillent au service du roi et produisent de nombreux portraits d'animaux, des animaux de la ménagerie, de ceux qui peuplent l'univers de la chasse, ou encore de ceux qui investissent le château. Ces productions, les très nombreuses études de Peter Boulle, les toiles de Nigasius Bernards, ont ensuite été utilisées dans les cartons des tentures, comme celles des maisons royales. Elles ont pu servir de modèle pour l'élaboration des meubles en marqueterie de pierre dure, et elles ont inspiré les peintres français comme Desportes et Oudry. l'exposition nous offre à voir la richesse de l'œuvre de ces deux peintres. Nous découvrons, au fil des salles, l'acuité de leurs regards, la justesse de leurs traits, la finesse de leurs réalisations et l'ampleur de leurs productions. Celle-ci a inspiré de façon très directe et très évidente les artistes de la Grande École animalière française, et Jean-Baptiste Oudry est l'un d'entre eux. Mais Jean-Baptiste Oudry, dans ses œuvres, et notamment dans cette toile intitulée « Trois chiens et une antilope », infléchit l'art de ces deux peintres de l'École du Nord. Il va plus loin dans l'expression et l'humanisation des animaux. Son observation aiguë des animaux de la ménagerie ou des scènes de chasse, sa connaissance des recherches sur l'expression des passions de Charles Lebrun, s'expriment avec force dans les attitudes, les regards de l'antilope et des chiens. Cette manière d'humaniser les animaux préfigure les sensibilités dans les dernières années du XVIIIe siècle. Mais il faut dire que dans le palais des rois de France, on n'a jamais douté que les animaux avaient une âme. Cela nous semble peut-être évident aujourd'hui. Ce n'était pas le cas à l'époque. Versailles est un lieu de résistance farouche à la théorie cartésienne des animaux-machines. Une salle entière est consacrée à ce sujet. Les deux commissaires de l'exposition, Nicolas Milovanovitch et Alexandre Maral, ont cherché à montrer la place de l'animal à la cour de Versailles et nous poussent à nous interroger sur celle qu'il occupe aujourd'hui dans notre société. C'est en cela aussi que l'exposition est engagée. Alors, en quoi consistait la théorie cartésienne des animaux-machines ? Cette théorie était portée par nombre d'esprits cultivés dans la première moitié du XVIIe siècle. Pour Descartes et ses suiveurs, les animaux n'ont ni âme, ni raison. Ils ne sont que des assemblages, infiniment subtils, de pièces et de rouages, dénués de conscience et de pensée. Les artistes, comme ceux que nous venons de citer, Boulle, Bernhardts, Desportes, Oudry, qui tour à tour nous livrent la folie meurtrière du chien chasseur, la détresse de la chevrette traquée, ou encore l'inquiétude de la mère pour ses petits chiots juste nés, sont en première ligne de cet anticartésianisme. Mais d'autres voix s'élèvent à Versailles contre cette théorie. En premier lieu, Louis XIV. Le roi éprouve un amour immodéré pour ses chiens. Il les fait loger dans des niches au cabinet du billard. Il les nourrit de sa main. Le pâtissier du roi délivre par jour 7 biscuits pour les petits chiens de sa majesté. Moins classique peut-être, le roi voue également une passion aux carpes d'ornement. Il les nomme, leur rend visite régulièrement, s'inquiète de leur santé, les soigne, leur parle, les nourrit à la main. À la disparition de sa préférée, l'adorée, sa tristesse fit même l'objet d'un couplet satirique qui circula dans tout le royaume. La princesse Palatine, belle-sœur du roi, épouse de Philippe d'Orléans, épistolière pleine d'humour, est également une des grandes figures de cet anticartésianisme versaillais. Lisons quelques-uns de ses mots, directs et acerbes. L'opinion de Descartes, au sujet des rouages d'horlogerie, m'a paru bien ridicule. Un jour, j'embarrassai fort un évêque qui partage tout à fait cette manière de voir. Il est jaloux de sa nature, et je lui dis « Quand vous êtes jaloux, êtes-vous machine ou homme ? Car après vous, je ne connais rien de plus jaloux que mes chiens, alors je voudrais savoir si c'est un mouvement de la machine ou une passion de l'âme. » Un siècle plus tard, Charles-Georges Leroy, garde des chasses de Louis XVI, étudie les animaux dans leur milieu naturel et les ruses extraordinaires qu'ils déploient. Il en vient à rédiger un des premiers ouvrages sur le comportement animal, intitulé « Lettres philosophiques sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux », avec quelques lettres sur l'homme. « la ménagerie de Versailles est également un lieu où est mise en pratique cette nouvelle approche, puisque le souci du bien-être animal est une préoccupation dès le début du chantier, et cela est particulièrement innovant pour l'époque. Partons à la découverte de cette ménagerie que nous avons déjà citée à maintes reprises, lieu de prestige, cher au roi, aux artistes, aux scientifiques et à la cour. Une salle lui est consacrée. Entrons. Au centre de la pièce, un pavillon octogonal. Il s'agit d'une restitution d'une partie de l'édifice aujourd'hui complètement disparue. Laissons-nous guider par cette scénographie immersive. Ce grand projet fut édifié au tout début du règne personnel de Louis XIV par Louis Le Vau entre 1662 et 1664. Situé à l'emplacement d'une ferme nommée Boissière, au niveau du croisillon sud du Grand Canal, on pouvait même y arriver par les eaux. La ménagerie présentait deux aspects bien différents quand on la regardait d'un côté ou de l'autre. Du côté de la cour d'honneur, les gravures d'époque figurent deux pavillons quadrangulaires encadrant un pavillon central, légèrement en retrait. Au centre de la façade de ce bâtiment, un escalier monumental menait au salon du pavillon octogonal. Il était coiffé d'un dôme surmonté d'un lanternon et décoré de 51 tableaux du peintre anversois Nicasius Bernhardts. 22 toiles subsistent. Une grande partie d'entre elles sont ici réunies dans la reconstitution de ce salon octogonal. Admirons-les. Elles sont exposées selon une disposition proche de celle mise en place à l'origine. Alternance de peintures ovales et rectangulaires sur les murs. Frise courante au-dessus des baies. L'une d'entre elles est intitulée « Poules, coques de diverses espèces dans la cour des belles poules » de la ménagerie royale. La texture et les coloris des plumages sont rendus avec finesse. Leur coiffure restitue avec délicatesse et vérité. Les animaux y sont saisis sur le vif dans leur singularité. Les toiles de Nicasius Bernhardts ont une véritable dimension documentaire sur le peuplement de la ménagerie dans les années 1660. Elles annonçaient ce que les visiteurs d'antan allaient découvrir en franchissant les baies. En effet, un balcon filant cernait cet octogone, offrant une vue panoramique sur sept cours rayonnantes, séparées par des murs, fermées par des grilles. La cour des belles poules, quartier des pélicans, cour de la volière, maison des carnivores. Ces cours étaient peuplées des espèces les plus belles, de toutes sortes d'oiseaux, d'animaux rares, poules sultanes, oies bernaches, haras, grues couronnées, renards, lions, lynx. Les oiseaux, particulièrement appréciés pour la beauté de leur plumage, étaient dominants à la ménagerie de Versailles. Les bêtes féroces y étaient représentées également, mais dans une moindre mesure, car la ménagerie de Vincennes, où se tenaient les combats d'animaux de temps en temps, leur était réservée. La ménagerie de Versailles se veut un lieu pacifié, comme devrait l'être celui de la cour. La ménagerie de Versailles contribue à la gloire du roi. Elle constitue un geste de prestige à portée symbolique. De ce balcon filant, il domine les espèces venues du monde entier. Il affirme son pouvoir. Il veut éblouir ses hôtes de marque. Rhinocéros, girafes, crocodiles, cerfs, biches, lions de mer, tortues, civettes, cassoars, quaggas, oies de Bornéo. Cela soulève la question du peuplement de la ménagerie. Les gouverneurs des provinces et des colonies sont en première ligne. Colbert donne l'ordre aux navires de la Compagnie des Indes de rapporter des animaux exotiques en grand nombre. Les importations arrivent d'Afrique pour les dromadaires, du Moyen-Orient mais aussi d'Amérique du Sud pour les alpacas, les vigognes, ou encore d'Indonésie pour le cassoar. Certains convois arrivent à Marseille, d'autres à Lorient. Une fois au port, la route reste longue. Il faut parfois attendre l'été pour traverser le pays dans des conditions climatiques supportables pour ces animaux exotiques. La mortalité est importante. Il est impossible d'estimer les sommes investies par le roi. Elles sont assurément faramineuses. Si cette ménagerie est unique par le nombre et la rareté des spécimens, elle est aussi pionnière par l'attention prêtée au bien-être animal. Des espaces d'eau ombragés sont prévus pour les oiseaux aquatiques. Certains enclos sont couverts de gazon alimenté de jets d'eau, d'autres de sable. Arrêtons-nous un instant sur la vie d'un des pensionnaires. L'éléphant du Congo, offert en 1668 à Louis XIV par le régent du Portugal. Il était sans doute âgé de 4 ans à son arrivée. Le château précise. Il a un caractère facile, un peu craintif. Très doux en temps normal, il comprend les moqueries et peut s'en prendre aux visiteurs discourtois. Avec sa trompe, il est très habile à se débarrasser des courroies qui l'entravent, à briser la porte de sa loge pour se promener à travers les différentes cours de la ménagerie, effrayant les nombreux oiseaux au passage. Durant le printemps et l'été, on le promène dans le parc. L'hiver, sa loge est soigneusement isolée et chauffée pour que l'animal ne souffre pas du froid. Il a un énorme appétit et un goût supposé pour l'alcool. Il lui faut chaque jour 80 livres de pain, entre autres, et 12 litres de vin. Peter Bull a produit de lui une série d'esquisses d'une très grande précision et d'une modernité étonnante. La ménagerie est source d'inspiration pour les artistes. Nous l'avons déjà évoqué à maintes reprises. La ménagerie participe également à l'ambition scientifique du roi. En effet, l'ampleur de la mobilisation de la faune royale, la diversité des animaux à portée d'observation, vont faire de la zoologie un pôle scientifique majeur. Cette démarche s'inscrit dans un émerveillement des contemporains pour les œuvres de la nature, perçues comme une entité vivante. Sous Louis XIV, Claude Perrault joue un rôle capital. Cet esprit universel, ce biologiste, médecin, anatomiste, architecte, zoologiste, botaniste, défend l'idée selon laquelle chaque animal est singulier et il cherche à le prouver. Dès 1667, il multiplie les descriptions morphologiques et les études anatomiques, en observant et en décrivant les animaux vivants, mais également en disséquant les animaux morts provenant des ménageries de Versailles et de Vincennes. Sa démarche est d'une grande modernité. Il s'appuie sur l'anatomie comparée. Invitons-nous à l'une de ces dissections. En 1681, l'éléphant royal, offert 13 ans plus tôt par le régent du Portugal à Louis XIV, meurt à Versailles. Intransportable, la dissection est organisée sur place. Sous la direction de Claude Perrault, avec le médecin anatomiste Joseph Guichard Duvernay au bistouri et Philippe de La Hire au dessin. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe. Les méthodes les plus rigoureuses sont mises en œuvre. Gradins et podiums sont installés. C'est aussi un véritable spectacle. La cour y assiste et le roi, qui soutient la recherche scientifique également. Il arrive un peu en retard, on raconte. Le roi ne dédaigna pas d'être présent à l'examen de quelques-unes des parties. Et lorsqu'il y entra, il demanda avec empressement où était l'anatomiste qu'il ne voyait point. Monsieur Duvernay s'éleva aussitôt des flancs de l'animal, où il était, pour ainsi dire, englouti. Les résultats de l'autopsie seront encore commentés par Buffon et Cuvier plus d'un siècle plus tard. La moindre des découvertes est que l'on s'est trompé sur le sexe de l'animal. C'était une femelle. Cette anecdote, pour vous dire comment Claude Perrault, assisté des médecins anatomistes et des artistes, avance dans la construction de cette science nouvelle qu'est la zoologie. La plupart de leurs observations sont incluses dans un ouvrage collectif intitulé « Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux ». Cet ouvrage fera longtemps autorité dans le domaine. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV cède la ménagerie à la duchesse de Bourgogne. Elle est mise au goût du jour. À la mort du roi, le lieu connaît quelques années d'abandon. Mais dès les années 1740, la ménagerie est à nouveau régulièrement approvisionnée. Le cassoir de Louis XV, peint par Audry, remplace celui de Louis XIV, peint par Boulle. Une éléphante, venue cette fois des Indes, est offerte par le gouverneur de Chandernagor. Louis XVI, pour sa part, désirait faire venir des zèbres. Ils ne survivront pas au voyage. En revanche, en 1784, un quagga arrive d'Afrique du Sud. Il s'agit d'une sous-espèce du zèbre. Il s'adapte très bien. Cette espèce était alors très répandue dans ces contrées australes. Elle a disparu au XIXe siècle, avec l'arrivée des colons. Aujourd'hui, des biologistes cherchent à la recréer en reproduisant son phénotype. Le sujet de l'exposition est donc bien en lien avec l'actualité. La ménagerie, quant à elle, ne survivra pas à la Révolution. En 1794, les animaux qui restaient sont transférés à la nouvelle ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle. Les bâtiments et les décors de la ménagerie de Versailles sont peu à peu détruits, au XIXe et au XXe siècle. En revanche, la ménagerie aura une grande postérité, à Chantilly tout d'abord, où les princes de Condé rivalisent avec Versailles. À l'étranger, elle est largement reprise sur les terres germaniques, dans les pays où règne l'absolutisme. Des ménageries fleurissent à Vienne, Schönbrunn, Potsdam, Koblenz, Saint-Pétersbourg. Notons cependant que les deux idées novatrices de Versailles, le plan centré et la vision dominante, ne sont pas exploitées dans ces contrées. Elles le seront plus tard dans d'autres édifices, comme les Salines de Ledoux à Arc-Senon ou encore dans l'architecture carcérale. Notre déambulation dans le bosquet du labyrinthe et la ménagerie vous aura sans doute convaincu que l'animal fut au cœur du projet de Versailles et l'est resté au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour être plus complète, il aurait fallu évoquer plus longuement le rituel monarchique de la chasse. Une salle spectaculaire lui est dédiée. Tapisseries, trophées peints en trompe-l'œil, peintures sur porcelaine s'y déploient dans une scénographie immersive évoquant la forêt. Nous aurions pu nous attarder dans les écuries et souligner que les chevaux logeaient dans des bâtiments en pierre, tandis que les ministres résidaient dans des bâtiments en briques. Nous aurions pu également parler des deux chats de Louis XV, général et brillant. Nous aurions pu citer les chats, les chiens, les pigeons de Madame de Pompadour. Ou encore les souris que Madame de Montespan attelait à un carrosse de filigrane. Nous aurions pu nous arrêter devant tous ces portraits qui témoignent de l'intimité entre les grandes figures versaillaises et l'animal, et souligner la place du chien dans ces représentations. Un chien, symbole de statut, emblème de distinction sociale, signe d'élégance raffinée et de dignité supérieure. Nous aurions pu admirer encore la place de ce bestiaire foisonnant dans les arts décoratifs. Nous aurions pu enfin plonger dans l'univers champêtre du XVIIIe siècle, avec ses pastorales et ses réflexions nouvelles sur les animaux, sur les vertus de l'élevage et leur expression dans le hameau de la reine. Vous l'aurez compris, il faut aller à Versailles pour visiter cette exposition, Les animaux du roi, pour vivre cet engouement pour le monde animalier, pour saisir son rôle politique, symbolique, pour prendre la mesure de l'omniprésence de ce bestiaire foisonnant, grouillant, pour découvrir les nouvelles approches scientifiques, esthétiques, culturelles, face à cet univers infini de diversité. En bref, pour mieux comprendre ce nouveau regard de l'homme sur la nature qui trouve des prolongements dans notre monde d'aujourd'hui. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de janvier 2021 avec l'association Un regard pour toi. Pour accompagner notre flânerie, j'ai choisi des extraits du compositeur Jean-Philippe Rameau, qui vécut sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Étant donné la place des volatiles à Versailles, et notamment à la ménagerie, j'ai retenu « Le rappel des oiseaux » et « La poule ».